Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les 3 coups sur les ondes. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que dans les 3 coups sur les ondes, on vous parle des pièces produites sur scène lors du festival des 3 coups. Hors Covid, le festival se tient de mars à avril. Mais cette année, la culture est bousculée et le festival s'adapte en diffusant les pièces produites sur sa chaîne YouTube et Twitch à partir du 5 avril. Tout au long de cette émission, vous aurez l'habitude d'entendre plusieurs voix. Aujourd'hui, vous m'entendrez moi, Zoé Paré, notre chroniqueuse Juliette Chevet et mes invités Hélène Nouzille et Clément Demelin. Et pour cet épisode, on vous parle de Si tu restes, écrit et mis en scène par Hélène Nouzille. Bienvenue dans les 3 coups sur les ondes. Si tu restes raconte l'histoire d'un jeune homme, Valentin, chassé du domicile familial par son père car ce dernier n'accepte pas la bisexualité de son fils. Pour découvrir plus amplement la pièce, je vous laisse écouter la chronique de Juliette Chevet.
Si tu restes, c'est une histoire de rencontre et d'affrontement. Affrontement entre deux modes de vie, entre deux visions du couple, et affrontement entre une jeune fille éprise d'émancipation et son père autoritaire. Mais comme les affrontements donnent toujours lieu à des rencontres, on y verra aussi le rapprochement entre Claire et Valentin, et la rencontre de leurs deux sensibilités et de leurs deux mondes. Claire protège et nourrit Valentin, qui a dû fuir ses parents homophobes. Cette rencontre, qu'Hélène nous y met en scène dans sa pièce, elle m'a fait penser à la rencontre entre Nolwenn et Lou, dans le merveilleux roman « Nos et moi » de Delphine de Vigan. On y lit la construction d'une forte amitié entre Lou, jeune surdouée de 13 ans qui a du mal à trouver sa place, et Nolwenn, une adolescente de 18 ans, sans domicile fixe. Cette relation leur offre le terrain d'un apprentissage mutuel. No découvre l'amitié et la sécurité affective, et Lou comprend que le monde est plus dur que ce qu'elle croyait. Dans la pièce d'Hélène, on retrouve aussi cette confrontation de deux milieux sociaux. Valentin vient bouleverser la vie de Château de Claire pour lui montrer que la réalité est bien différente. Le roman « Nos et moi » et la pièce « Si tu restes » réussissent à mettre en mots la richesse d'une rencontre. Les personnages découvrent une altérité qui leur était inconnue et cela leur permet de se décentrer et de mieux comprendre le monde dans lequel ils s'inscrivent. Je vous ai dit au début que la pièce racontait aussi l'affrontement entre deux visions du couple. Et oui, c'est le traditionnel conflit entre choix de raison et choix d'amour. Le père de Claire veut qu'elle épouse celui qu'il lui a choisi, un jeune homme de bonne famille, alors que Claire souhaite écouter les sentiments naissants qu'elle éprouve pour Valentin. Elle choisit finalement de s'élever contre les normes de sa classe et contre la volonté de son père. Et cela me fait penser à une autre histoire, celle de Elizabeth Bennet et Mr. Darcy dans « Orgueil et préjugés » de Jane Austen. Dans une Angleterre rurale et traditionnelle, Elizabeth est une jeune fille vive et intelligente qui utilise son sens de la répartie pour faire comprendre à tous qu'elle suivra ses propres choix et non ceux préconisés pour une jeune fille de sa classe. Elle refusera par exemple deux demandes en mariage qui auraient pu lui apporter la stabilité financière car elle croit que le mariage doit être le lieu du bonheur et de l'épanouissement et non celui de la sécurité. Comme Claire, elle décide de choisir son fiancé en écoutant ses sentiments et non des raisons financières ou des stratégies politiques. Si tu restes, c'est donc une histoire d'amour, de liberté et d'apprentissage. L'horizon de Claire est élargi par sa rencontre avec Valentin et cela lui ouvre la route vers l'émancipation et la liberté. Sous l'influence du jeune garçon, elle ose s'exprimer et rester fidèle à ses convictions. Hélène Nouzille nous offre donc un très joli exemple de l'apprentissage par imitation. Et de la même manière que Claire apprend de Valentin, la metteuse en scène offre l'opportunité aux spectateurs et spectatrices d'apprendre de ces personnages. Parce que voir des personnages, même fictifs, suivre leurs envies, fait vivre la possibilité de l'existence même de cette alternative. Alors qu'on croyait que seule la solution de raison existait, c'est tout un nouveau champ des possibles qui s'ouvre sous l'impulsion de ces personnes passionnées. Observer les autres briser des codes nous encourage à faire de même. La pièce « Si tu restes » est un bel exemple qu'on a besoin, dans la fiction comme dans la réalité, de modèles qui nous poussent à sortir des sentiers battus.
Aujourd'hui, pour notre table ronde, je retrouve Hélène Nouzy, dramaturge et metteuse en scène, et Clément Demelan, qui joue Valentin. Bonjour.
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 Est-ce que vous pouvez nous présenter la pièce en quelques mots ?
Alors, c'est l'histoire de Valentin. Valentin, c'est un... une sorte de vagabond, âgé de 20 ans, qui a des gros soucis familiaux et qui va se retrouver à vivre dans une écurie d'un château. Et là, il va rencontrer du coup la famille de ce château. Et donc, il y a différents événements qui vont... Et il va se lier d'affinité avec deux des membres de cette famille. Et il y aura aussi pas mal de tensions avec d'autres membres de la famille. Et donc, on suit la vie de ce Valentin et des membres de la famille. Et voilà.
Claire et Grégoire, qui du coup sont les enfants du propriétaire, qui le prennent sous leurs ailes. Et il y a des liens qui se créent entre eux.
Et du coup, Hélène, t'as écrit et mis en scène la pièce. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'écriture ?
J'ai mis un peu plus de 2 ans pour l'écrire. C'est des choses très très différentes qui ont inspiré cette histoire. Surtout 3, on va dire. Et en fait, il y en a une, c'est un livre d'enfants. Mm-hmm. C'est deux personnages... Ernest et Célestine, qui vont pique-niquer.
Ah ouais, voilà.
Et en fait, ils vont pique-niquer sur un terrain, mais un terrain privé. Et le propriétaire va les voir, leur dit c'est privé, faut pas rester là et tout. Et finalement, les deux personnages, ils l'invitent à rester avec eux. Et ils restent et ils passent un super moment et tout. Et puis ils finissent copains. Voilà. Donc ça, c'est... On retrouve un peu... Enfin, ça, du coup, pour les... le rapport avec certains personnages dans la pièce de théâtre. Il y a aussi, quand j'étais plus jeune dans ma ville, il y avait une campagne publicitaire pour le refuge où en fait on voyait par exemple un jeune recroquevillé dans la rue avec une phrase comme Théo, 18 ans, chassé de son domicile familial parce qu'il est homosexuel. Et moi j'étais innocente à cette époque-là et vraiment je comprenais pas le rapport entre être homosexuel et se faire virer de chez soi en fait. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait de l'homophobie, en fait. Et donc, ça m'a marqué. Enfin, c'est la première fois que vraiment j'ai appris qu'il y avait ça. Et puis, le dernier truc, on va dire, c'est l'histoire de mon copain, enfin, mon ex maintenant, qui a une relation très compliquée, même violente, avec son père. Et quand il me l'a raconté, ça m'a marqué, ça m'a même pas choqué. Et c'est un petit peu la relation qu'a Valentin du coup avec son propre père dans l'histoire. Donc c'est tout ça que j'ai mêlé, qui s'est mélangé, ça a fait ça.
Oui, parce que par rapport aux affiches du refuge, il faut préciser que Valentin, il est viré de chez lui parce qu'il est bisexuel.
Il est bisexuel, c'est ça.
Et toi Clément, comment est-ce que tu as travaillé du coup le personnage de Valentin ?
Bonne question. En répétition tout simplement... En testant des choses, et quand c'était accepté, on gardait, tout simplement. Et au fur et à mesure, ça s'est construit. Mais j'imagine que la première fois où j'ai lu le texte, c'était pas du tout la façon dont j'imaginais le jouer que maintenant, en fait. Je pense que ça a vachement évolué avec les discussions et avec ce qui était bien ou pas à faire.
Parce que tu l'imaginais comment au début ?
Bonne question. Comme c'est ma première expérience de théâtre... plein de choses, je pense. Vraiment, pas d'avis prédéfini. Peut-être un peu plus bourru, un peu plus... alors que c'est pas comme ça, finalement, que je le fais.
Est-ce que t'avais des inspirations qui se sont croisées quand, justement, t'as commencé à travailler le personnage ? Tout comme ce qu'Hélène disait, tu vois, pour l'écriture ?
Mais pas tellement, non. Okay. Plutôt, je suis parti de rien, je pense.
Et comment est-ce que le travail s'est passé entre, du coup, metteuse en scène et comédien ?
Au début, c'était en visio. Donc, c'était pas simple. On va pas se mentir. C'était pas simple. Et ça a fait énormément de bien de se voir... c'était quand, courant novembre,
je pense. Mi-décembre.
Mi-décembre, ouais. C'est tard.
Des confinements.
Ouais, c'est ça. Donc, là, ça a fait vraiment beaucoup de bien. Parce que là, du coup, le fait de jouer, évidemment... Là, tout de suite, les mimiques, tout de suite, tout vient. Et là, on a pu avancer beaucoup, beaucoup plus vite.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, je pense juste du coup aux personnages, comment ils les voyaient, tout ça. En fait, c'est dans la troupe, les comédiens, ils ont vraiment une façon différente de voir et de travailler les personnages. Enfin, par exemple, il y en a, ils ont besoin, dès qu'on va faire la scène pour un premier essai, en fait, ils ont besoin de savoir tout de suite ce qu'ils doivent faire. Pour d'autres, ce que je préfère, c'est leur laisser un premier essai, puis on voit après, on fait évoluer à partir de ce qu'ils proposent. Et il y en a, ils ont aussi le truc tout de suite. Il y a un comédien, Nathan, là, qui fait le frère, donc Grégoire. Il avait tout de suite le personnage, en fait. Et même à l'audition, quand il m'a dit « je suis plus sensible au personnage de Grégoire », effectivement, au moment de l'audition, je voyais déjà Grégoire, en fait. Et on a pas mal discuté récemment et tout, et vraiment, il analyse beaucoup les personnages et... Ils les cernent bien et tout, donc c'est aussi une approche intéressante.
Et est-ce qu'il y a des comédiens qui ont interprété les personnages d'une façon complètement différente de celle que tu les avais envisagées pendant l'écriture?
C'est plus une idée que j'ai, et après, justement, ce que chacun apporte, j'aime bien, et c'est mêler un petit peu tout ça, ce que j'imagine. Après, des fois, on va un peu... Des fois, j'aime bien ce que, par exemple... Mathilde, qui fait donc Claire, le personnage féminin principal, et donc Clément, des fois, ils proposent des choses que moi, j'imaginais pas ça comme ça, et finalement, je trouve ça intéressant aussi, donc ouais, c'est un petit peu un mélange de tout ça, en fait.
Et en lisant la pièce, j'ai vraiment vu, puis du coup, ce que tu m'as dit avant l'a confirmé, que les relations familiales sont vraiment au cœur de ça. Comment est-ce qu'on travaille des personnages qui sont vraiment... Enfin, tout est vraiment centré autour de ces relations familiales-là. Est-ce que ça... a pris de l'ampleur aussi dans la façon dont vous avez envisagé la pièce?
Pour rebondir un peu sur ce qu'avait dit Hélène avant, le fait que Nathan, donc du coup Grégoire, interprète assez rapidement, pleinement son rôle, ça fait qu'on a pu, moi en tout cas, j'ai pu vis-à-vis de lui, du coup, trouver bien ma position et trouver comment jouer avec lui. Et en fait, ça a été un peu le départ de ok, on a un truc solide et tac, on se rattache et on évolue comme ça. Mais je crois que je m'éloigne un peu de ta question.
Non, mais c'est super intéressant. Mais enfin, du coup, ça veut dire qu'au final, les relations familiales de la pièce, vous les avez transformées dans votre façon de jouer les personnages en ayant un peu ce truc de pivot.
Ouais, c'est vrai que l'amitié entre Grégoire et Valentin, à l'origine, peut-être qu'elle n'était pas aussi. Je dirais pas fusionnel, mais...
Alors c'est vrai que quand ils faisaient les scènes ensemble, du coup Nathan et Clément, tout de suite, assez vite, je dis, on sent que c'est les bons potes en fait et tout. Et en même temps, ça va un peu au-delà de ça. Et c'est un peu découverte de certains sentiments, parfois refoulés. Et ça aussi, c'est quelque chose que... qui est ressorti aussi un peu au fur et à mesure des répétitions.
Et est-ce que vous pensez que comme les personnages, on peut se défaire d'une emprise familiale comme ça, qui est aussi dominante, enfin,
avec le temps.
J'ai rien à ajouter.
Clément acquiesce avec les yeux. Je parlais de domination parce qu'en fait, en lisant la pièce, j'ai eu l'impression que c'était plus que des relations familiales. J'ai eu l'impression que c'était vraiment de la domination par rapport à tout. C'est le père de Valentin avec Valentin, le père, enfin du coup le propriétaire du château avec ses propres enfants, et même Valentin et les autres squatters. Enfin, il y a vraiment de la domination sur tout. Est-ce que vous avez eu ce ressenti-là aussi ou pas, ou même en l'écrivant, est-ce que c'était quelque chose que tu voulais insuffler à la pièce?
Ouais, c'était important pour moi d'exprimer ce problème-là en quelque sorte, on va dire. Et en fait, pendant les auditions, et même encore après, il y a des comédiens qui m'ont dit j'étais sensible à ce sujet-là dans ta pièce, en fait. Et là, je me suis dit que finalement, ouais, ça en touche pas mal. Et c'était un besoin pour moi de l'exprimer et pour d'autres de le jouer. Et je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup, beaucoup de personnes.
Et par rapport à la mise en scène, comment est-ce que ça se concrétise, tout ce que vous avez pu me dire ?
Bah, les rapports de force, enfin, y a des rapports de force assez violents à certains moments. Et du coup, pour ma part, c'était par exemple la première fois où il fallait que j'imite une bagarre ou que je me... quand je prends des coups ou quoi, savoir le jouer. Tu peux reposer ta question ?
Par rapport à la mise en scène,
oui.
Comment est-ce que ça s'est
concrétisé ? Du coup, récemment, au début, on savait qu'on allait jouer, ça allait être très compliqué de jouer avec devant un public. Mais on pensait pouvoir jouer sans masque et sans distanciation si on respectait le nombre de moins de 6 personnes, 5 personnes. Ça. Sur scène, et il y a quelques semaines, on a su qu'il allait falloir respecter les distanciations et le port du masque. Et du coup, là, on est en plein dedans pour refaire justement cette mise en scène, parce que il y a très peu de scènes finalement où on n'a rien à faire en fait, où on n'a rien à toucher. Là, il va falloir vraiment reprendre pas mal de choses.
Parce que du coup, il y a plusieurs lieux. Là, il y a le squat, le château.
C'est ça.
Et ouais. Puis après, dans la vie, après, sans vouloir spoiler, du coup, de plusieurs personnages.
Ouais.
Okay. Et du coup, vous devez revoir tout ça matériellement, enfin changer la façon dont c'est disposé.
Et du coup, là, je suis vraiment dessus à revoir les scènes où il y a vraiment beaucoup de contacts et tout. Et là, ce matin encore, j'étais à fond dessus et j'ai trouvé plusieurs idées pour que ça pose pas problème et que la mise en scène puisse quand même être... Enfin, que ça marche, que ça fasse pas ridicule ou plat ou quoi. Est-ce que ça, c'est le risque du coup quand normalement il doit y avoir pas mal de contacts physiques et qu'au final, non. Il faut quand même qu'il se passe des choses, qu'on sente des choses. Et donc ça, c'est un peu compliqué, mais je suis motivée. Ah, on est motivés, ouais. Donc on y croit.
Le personnage de Valentin, au final, il est vraiment hors de la norme, enfin de ce qu'on considère être la norme, puisqu'il est bisexuel, il vit dans un squat, enfin il a été exclu de son foyer, etc. Comment est-ce qu'on aborde la représentation de ce personnage-là qu'on n'a pas l'habitude de voir, justement ?
Je pense que ça se fait un petit peu, justement, avec la relation qui se fait avec Grégoire et Claire. Où là, ça nous permet aussi d'aller un peu plus en profondeur chez lui, je pense. Ouais, c'est comme ça que je vois.
C'est sa relation aux autres, du coup, qui permet de s'immiscer et de comprendre son personnage.
Ouais, moi, c'est vraiment par les autres que j'ai pu jouer plus facilement ce personnage.
Et c'est drôle parce qu'en fait, je voulais vous poser une question par rapport à, justement, à Valentin étant le pivot un petit peu de la pièce, celui autour de lequel toutes les relations tournent. Et au final, tu me dis, le pivot, c'est le comédien qui joue Grégoire.
Ouais, plutôt, ouais. Ouais, tout à fait. Bah ouais, parce qu'en plus, lui, du coup, par la force des choses, il a plus d'expérience dans le monde du théâtre. Et donc, humainement, moi, je me sentais pas forcément légitime de tout de suite proposer des choses ou de... Donc, et puis c'était aussi plus simple de se reposer sur ce que les autres faisaient pour s'en inspirer. Et en fait, sans penser à tout ça, les choses sont venues assez naturellement. J'imagine que Nathan, du coup, c'est quelqu'un qui met en confiance assez facilement. Et donc ça a vraiment bien facilité les choses, je pense.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans le processus de création de la pièce ? Enfin, pas de création, mais du coup de mise en scène de la pièce pendant ces différents mois de répétition ? Quelque chose auquel vous vous attendiez pas ?
Comme ça, là, je vois pas.
Après, c'est pas tellement sur la pièce en elle-même, mais c'est plus sur le côté humain, on va dire, qui... J'avais peur que du coup, parce que pour moi le côté troupe ça compte autant que vraiment la pièce en elle-même, tout ça, et j'avais peur avec les visios et tout ce qui s'annonçait que du coup que ça mette une distance avec tout le monde et ça aurait été dommage. Je voulais vraiment, enfin c'est un projet qu'on mène tous et en fait ça s'est super bien passé et l'ambiance est super cool et ça c'est hyper important aussi pour le projet.
Mais c'est aussi parce que tout le monde s'est investi malgré les visios au début, et c'est vrai que les premières fois on s'est vu en vrai quoi, c'était trop bien quoi, parce que enfin un projet qui avait 2-3 mois où on se disait, bon, là, ça commence, il commence à avoir des longueurs, quoi, parce que faire du théâtre sans se voir, c'est, ça a peu de sens. Et là, on rencontre vraiment les gens, on se dit, ah là là, c'est fou, c'est quelqu'un que je connais sans connaître, en fait. Et là, ouais, passer du temps avec ces gens-là, même sans parler de théâtre, du coup, créer des affinités, c'est vraiment puissant, je dirais.
Puis j'imagine que du coup, la relation entre comédien et comédienne, elle est différente aussi du fait de jouer ensemble. Il y a une autre dimension.
Mmh. Oui, tout à fait. Il faut tout de suite être, pas être plus à l'aise et tout, donc ouais, c'est sûr.
Est-ce que vous avez quelques mots à ajouter pour convaincre les gens de venir voir votre pièce?
On va tout donner. On va tout donner.
Il faut rappeler que les pièces seront captées et diffusées sur YouTube et Twitch, enfin les réseaux sociaux des trois coups. Donc voilà. Mais les gens auront quand même l'occasion, je pense, de voir la cohésion de groupe, etc., qui elle,
j'espère,
transparaîtra. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.
Les histoires comme celle de Si tu restes nous rappellent encore la nécessité des luttes LGBTQ+, de la mise en place des centres d'accueil et d'aide aux jeunes queers et plus globalement du changement des mentalités hétéronormatives. Si on regarde Si tu restes à travers des œillères féministes et intersectionnelles, on peut y retrouver les fameux rapports de domination combattus à travers ces luttes qu'évoque notamment Raewyn McConnell dans ses travaux. Les pères, dans cette pièce, font partie de ce qu'elle pourrait appeler la masculinité hégémonique. L'homme dominant, archétype de la virilité, qui cherche à établir son autorité sur toute autre personne dont le statut social ne lui est pas considéré comme égal, comme Claire par exemple. L'ami d'enfance, qui jusqu'à la fin représente cette masculinité complice, ne fait pas usage de la même violence, mais pour autant, il ne fait rien de spécial pour changer la situation de Claire, qui va probablement être forcée de l'épouser. Les squatteurs, pétris d'une violence nécessaire à leur survie, se rangeraient dans une masculinité marginalisée. Leur domination par la force physique les rend certes virils, mais leur situation précaire en tant que SDF ne leur permet pas d'accéder au même rang que le châtelain et le père de Valentin. Grégoire est à un moment complice, puis devient un allié de Valentin. Valentin, lui, dont l'orientation sexuelle ne lui permet pas d'incarner les valeurs et les normes de la virilité, nous permet de parler de masculinité subordonnée, celle qui l'exclut de sa famille. En tout cas, entre chacun de ces personnages se jouent des rôles bien plus grands que celui qu'endossent les comédiens. Ou plutôt non, ils jouent, comme les comédiens, un rôle assigné très tôt, qu'ils ne pourront que partiellement quitter, au terme d'une prise de conscience douloureuse. En quittant son père, Valentin échappe à un écrasement de son identité, et invente avec Claire une autre façon de vivre. Représenter au théâtre une orientation sexuelle queer, c'est certes offrir une représentation nécessaire à l'épanouissement du public concerné, mais c'est aussi poser sur papier et composer sur scène des relations de pouvoir en pleine implosion. Cette émission fait partie de la saison 2 des 3 coups sur les ondes. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site Radio Campus Angers. Nous vous remercions de nous suivre et nous espérons que vous profitez des pièces diffusées sur Twitch et YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les dates de diffusion, suivez-nous sur Instagram et Facebook, @festivalles3coups. Un grand merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses d'avoir participé à notre émission. Juliette Chevet, Louise Lefebvre, Justin Loisy, Inès Poirier, Martin Bélier et Amélie Rochet. Merci à Radio Campus de nous prêter leur studio et leur matériel et de nous allouer de leur temps. Merci également à Cobalt d'avoir cru en notre projet. Merci pour le mixage et le suivi du projet. Cette émission est réalisée par 3 membres du bureau des 3 coups. Dorian Rochet, Emma Muller et moi-même, Zoé Paris. L'émission est coproduite en partenariat avec Cobalt. Merci beaucoup pour votre écoute et à jeudi prochain, 16h30. À bientôt.